Vos Bibles, dans toujours la première épître de Jean. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas de Bible ? Voilà. Donc, première épître de Jean. On va attendre que tout le monde y soit. Première épître de Jean, plutôt vers la fin. Un peu avant la fin. Bon, c'est bon, tout le monde y est. Donc, première épître de Jean, chapitre 2, versets 3 à 14. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le père. Je vous ai écrit, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin.
Alors, moi j'aime pas les examens. Ça me stresse. Je garde un souvenir assez douloureux, en fait, d'un examen de piano raté. C'est vrai que l'idée d'un examen, ça peut faire peur. Ah. Ben oui, c'est la peur de ne pas réussir. On se pose la question, mais quelles questions vont être posées ? Est-ce que les questions que moi j'ai préparées à l'avance seront retenues par l'examinateur ? Et c'est clair que l'idée de passer en rattrapage après l'été, bon, c'est pas une idée très attrayante. Peut-être pour vous, c'est pas l'idée de passer des examens à la fac ou au lycée qui fait peur, c'est peut-être plutôt la peur d'aller de passer des examens médicaux. Le passage chez le médecin fait un peu peur aussi. Quels seront les résultats du test, du scanner ? Alors, dans notre passage de ce matin, l'apôtre Jean nous parle de deux épreuves, deux tests qui diagnostiquent en quelque sorte l'authenticité de la foi. C'est vrai, on n'aime pas ce genre de test non plus, hein. Ça fait un peu peur. Et ça peut être un peu déstabilisant, puisqu'on n'est jamais à la hauteur. Mais ça, en tout cas, n'est pas le but de l'apôtre Jean. Il ne nous donne pas ces tests pour nous inquiéter, mais pour nous rassurer et pour nous encourager à nous accrocher à l'Évangile, à ce message du Christ, le Christ qu'il a vu lui-même, qu'il a entendu et qu'il a touché de ses mains. Alors c'est vrai que dans chaque église, il y a des gens qui ont une conscience assez sensible, les gens qui doutent un peu de l'authenticité de la foi, qui se posent la question, est-ce que je suis vraiment chrétien ? Souvent, ce sont des gens qui sont le plus chrétiens. Ce sont des gens qui prennent vraiment au sérieux leur foi. Alors, Jean n'a pas envie de déstabiliser qui que ce soit. Il veut fortifier et édifier l'Église. Parce que lui ne doute pas de l'authenticité de la foi de ses lecteurs. Par contre, il doute un peu de l'authenticité de la foi de ceux qui essaient de les égarer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir au chapitre 3, un peu plus tard. Mon cauchemar récurrent est que je suis à l'église dimanche matin et qu'on annonce que c'est moi qui prêche et je n'ai pas mes notes. Ça m'arrive assez souvent d'avoir ce cauchemar. Alors le cauchemar d'un étudiant est plutôt d'arriver dans la salle de l'examen, s'asseoir et puis de retourner le papier pour voir quelles sont les questions sur l'épreuve. Alors, imaginons le scénario suivant. L'étudiant doit passer l'épreuve de philo. C'est le premier jour du bac. Il arrive, il est plutôt du genre confiant, à l'aise. Il a fait des notes de révision, comme un bon étudiant, sur Platon, sur Socrate, sur Épicure, sur Rousseau, etc., Foucault. Il maîtrise, il est confiant. Alors il tourne le papier pour voir quelles sont les questions là sur l'épreuve, et à son horreur, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit les calculs à faire. Ah mince, c'est quoi ça? Il est complètement déstabilisé, complètement déboussolé. C'est injuste. Bah, c'est vrai, il a révisé Descartes, Pascal, des mathématiciens, mais il ne maîtrise pas. Il n'a pas leur prouesse mathématique. Je peux peut-être demander à Kit après ou à Emma de répondre à cette épreuve. Alors, les faux docteurs, ceux des personnes qu'on va voir un peu au chapitre 3, essaient d'égarer les lecteurs de Jean. Et fort probablement, ils avaient donné d'autres consignes à ces chrétiens. Une sorte d'épreuve, une sorte de test complètement inattendu et à côté de la plaque. Ça se peut qu'ils disent, pour être un chrétien authentique, il fallait être comme eux. Il fallait faire ceci, cela, il fallait sans doute accéder à une connaissance spécifique, une connaissance élevée. Si on pense au texte qu'on a abordé la semaine dernière, donc chapitre 1 de 1 Jean, on peut discerner plusieurs problèmes. Ces faux docteurs, sans doute, disaient qu'ils étaient en communion avec Dieu, qu'ils étaient vraiment très proches de Dieu. Mais on a vu qu'ils vivaient n'importe comment. Il vivait dans les ténèbres. Et Jean a dit, un vrai chrétien, un chrétien authentique, celui qui est en communion avec Dieu, est marqué par la lumière. Il cherche à être saint dans sa vie de tous les jours. Et ces faux docteurs prétendaient sans doute qu'ils étaient sans péché. On a vu au verset 8 ça. Ils prétendaient peut-être qu'ils avaient atteint une perfection divine, une perfection sublime. Et Jean a dit non, pour être un chrétien authentique, il faut plutôt se reconnaître pécheur, confesser ses fautes, trouver son assurance dans son avocat, Jésus-Christ, qui est à la droite du Père. Et là, dans notre passage, Jean répond aux chrétiens, il veut les rassurer. Voici les vrais tests. Ceux que vous aviez dès le début, ne soyez pas perturbés par ces faux tests. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de raison à s'inquiéter. Je vous avais déjà donné les réponses et les questions à l'avance. Et nous verrons que Jean leur dit à la fin, « Ça y est, vous allez bien. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes des chrétiens authentiques. Continuez. » Alors voici notre feuille de route pour ce matin. Alors notre but, ou le but de Jean, je pense, c'est que nous sachions que nous sommes des chrétiens authentiques Il va nous donner ces épreuves, ces tests de l'obéissance, de l'amour fraternel. Et à la fin, il dit à ses lecteurs, ça y est, c'est bon, c'est exactement ce que vous faites, continuez comme ça. Donc on va commencer avec cette épreuve de l'obéissance. Verset 3. Comment savoir que vous êtes chrétien? Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Alors ensuite, au verset 4, Jean introduit deux personnes. La première personne parle et la deuxième personne agit. Il faut dire que la première personne est tout simplement un hypocrite. Elle proclame haut et fort qu'elle connaît Dieu, mais sans vivre pour Dieu. Et encore une fois, Jean a peut-être ses gens en vue qui essaient d'égarer un peu ses lecteurs. Ces gens qui prétendaient avoir une connaissance spéciale de Dieu, mais qui ne vivaient pas pour Dieu. Jean dit que si cette personne qui se vante de connaître Dieu, il dit que cette personne qui se vante de connaître Dieu, mais qui n'obéit pas au commandement de Dieu, il dit simplement que cette personne est un menteur. Il n'y va pas par quatre chemins. Cette personne est un menteur, elle est perfide. Voilà la preuve qu'elle ne connaît pas Dieu. À la fin du verset 4, on lit que la vérité n'est pas en elle. Cette personne n'a pas Dieu, n'a ni Dieu, ni l'Évangile. Mais de la personne qui agit et qui garde sa parole, Jean nous dit au verset 5 que l'amour de Dieu est vraiment accompli en elle. Il est rendu parfaite en elle. La parole de Dieu est puissante, elle est agissante, elle produit des fruits. Cette obéissance qui conduit à l'amour montre bien que le chrétien est vraiment en lui, en Christ, en Dieu, que la parole est en lui. Et Jean complète sa pensée en disant que cette personne-là marche comme Jésus a marché. Cette personne se comportera comme Jésus. Prendre modèle sur Jésus. Alors, Jean ne parle pas de la perfection. Il sait que nous passons tous par des chutes, par des moments difficiles, nous avons tous nos luttes, nos faiblesses. Et le premier test que Jean nous a donné la semaine dernière, dans le passage d'avant, était le test de l'honnêteté devant Dieu. Nous sommes tous pécheurs, ça serait fou de prétendre le contraire. Le chrétien authentique a changé de direction, il a changé de sens, il a fait de Jésus sa boussole morale, spirituelle. Mais il y a toujours des progrès à faire. Alors il y a quelques semaines, pour ceux qui sont là plutôt le mercredi soir, donc on a étudié Éphésiens 4 et 5. Et Paul, l'apôtre Paul, a parlé des commandements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment imiter Jésus? Comment prendre pour modèle Dieu le Père et Jésus? Il a beaucoup parlé des paroles qui édifient et aussi des paroles destructrices. Paul a beaucoup parlé de la pureté sexuelle. Il a dénoncé le mensonge et il a exhorté ses lecteurs à la justice, à la bonté. Le chrétien authentique n'est pas parfait. Il est conscient, par contre, de son besoin de pardon. Mais il marche dans le bon sens. Il a fait un choix de marcher dans le bon sens. Il a toujours des progrès à faire, mais il cherche quand même à mettre en application la parole. Ce n'est pas une question de gagner son salut ou de se faire bien voir aux yeux de Dieu. C'est simplement notre réponse à l'évangile de la grâce. Dieu nous a pardonné gratuitement. Personne ne peut jamais rendre propice Dieu. Ne peut jamais rendre Dieu propice. C'est Jésus qui l'a fait par son sacrifice. Mais le chrétien, il a saisi la grâce. Et parce qu'il a saisi la grâce, il a envie. Simplement, il a envie de vivre autrement, de se comporter autrement. Il désire servir son Seigneur. Et sans doute, ce désir est en vous. Alors, les lois de la République et ceux qui veillent à leur application nous font un peu peur parfois. Dès qu'il y a une sirène qui s'enclenche, là, on est peut-être dans la voiture, sur l'autoroute, on se sent coupable. Et puis on regarde partout pour savoir, est-ce moi ? Et si le gendarme nous arrête, nous avons la trouille. Mais écoutez ce que dit le psalmiste dans le psaume 119. « Je serre dans mon cœur ce que tu as dit, pour ne pas pécher contre toi. » Donc c'est le verset 11. Et plus loin, il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Pour le chrétien, les commandements de Dieu ne font pas peur. Elles sont des merveilles. Parce que on connaît Dieu. Dieu est notre Père. Dieu veut notre bien. Il veut notre épanouissement. Il veut notre bonheur. Et ses commandements montrent qui il est, à notre relation avec lui. Ses commandements révèlent sa sagesse et sa bonté. Il est notre bon Père céleste et nous sommes en communion avec lui. Jean ne nous donne pas une épreuve intellectuelle, hein? Jean ne nous demande pas de réciter les barcas, les symboles de la foi. Le test d'authenticité n'a rien à voir avec notre capacité de discourir sur la Trinité ou sur les deux natures du Christ. Jean ne nous demande pas d'avoir la voix la plus sublime à l'Église, la famille la plus parfaite, ou d'être celui qui va à toutes les réunions de l'Église. Non, c'est pas ça. Le chrétien, c'est celui qui essaie de marcher, tant bien que mal, comme Jésus a marché, en aimant Dieu, en aimant son prochain comme lui-même, par reconnaissance, par amour pour lui, sachant qu'il est pardonné, confiant qu'il a un avocat qui est là auprès du Père et qui plaide sa cause. Alors lorsqu'on a l'impression que on s'éloigne un peu de Dieu, donc on est allé un peu dans le mauvais sens, on a été désobéissant, ce n'est pas d'abord une question de redoubler nos efforts, mais c'est d'abord une question de revenir à Jésus, à recevoir son pardon, à revenir à la croix, au pied de la croix, humblement, sincèrement, modestement, de ressaisir la grâce, cet amour gratuit que personne ne peut mériter. Et fort de cette grâce-là, de cette assurance que nous avons un avocat auprès du Père, c'est à partir de là que nous pouvons repartir et redoubler nos efforts pour marcher selon Jésus. Peut-être que vous vous dites « Je ne suis pas sûr d'être chrétien. Je ne pense pas que j'ai jamais fait une démarche de pardon, de repentance auprès de Dieu. J'ai toujours des questions, je ne sais pas. Ce n'est pas trop tard. » Vous êtes au bon endroit. Et peut-être ce matin, c'est le moment de commencer à vous mettre en marche, à suivre Jésus, à prendre Jésus pour modèle, à demander pardon auprès de Dieu. Si c'est vous, peut-être vous pourriez peut-être venir m'en parler après ce culte, ou parler peut-être avec la personne qui vous a amené à l'église. Alors, nous sommes au deuxième test, à la deuxième épreuve. Et là, Jean veut se focaliser sur un commandement en particulier. Alors, en général, les commandements, l'obéissance, c'est quelque chose qu'on fait pour Dieu, donc c'est envers Dieu, c'est un aspect vertical. Et Jean, ici, là, commence à parler de l'aspect un peu horizontal, donc ça s'exprime dans notre comportement envers nos frères et sœurs, l'amour fraternel. Je vais relire les versets 7 et 8. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. C'est un peu compliqué, en fait, ces versets, hein. Il y a un commandement nouveau, mais en fait, ce commandement nouveau est également un commandement ancien. Ancien parce que Jean en avait déjà parlé. Donc, il en a parlé dans son évangile. C'est une parole qui va au cœur de l'évangile. On le trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, nous connaîtrons que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres, pour les autres. » C'est un commandement pour un nouvel âge, l'âge de l'évangile. Jean nous dit au verset 8 que les ténèbres passent et la lumière brille. La vie, la croix, la victoire de Jésus sur la mort, tout ça a changé la donne. Nous vivons dans un nouvel âge, la lumière est venue, elle a déjà brillé parmi nous. Et on l'a vu à la croix. C'est là qu'on voit tout l'amour de Dieu pour nous, donc l'amour du Père. On voit aussi l'amour du Fils qui se donne à son Père et qui se donne pour nous. Et pour cet nouvel âge, Jésus nous donne un nouveau commandement. Alors là, par la suite, Jean reprend ces deux personnes. Il y en a une qui se vante d'être dans la lumière, mais ce sont des paroles en l'air, c'est du blablabla. Pourquoi ? Parce que cette personne déteste son frère. Elle lui en veut, elle est jalouse de lui. Et Jean est catégorique que cette personne, loin d'être dans la lumière, elle est toujours dans les ténèbres. Pire, cette personne est aveuglée par les ténèbres. Elle ne voit plus clair. Elle ne va pas où elle va. On ne la voit pas où elle va. Elle est spirituellement perdue. Elle est moralement paumée. Elle est prise dans l'engrenage des ténèbres. Elle s'y enfonce. Mais celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Cette personne demeure en Christ, en Dieu. Cette personne connaît Dieu. Elle connaît la vie. C'est comme un cercle vertueux. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'aimer nos frères et sœurs. Hein. Chacun a ses défauts. Chacun a ses points faibles, ses bêtes noires, ses manies. Que certains aiment les vieux cantiques, d'autres aiment les chants modernes. Certains sont très discrets, d'autres sont moins discrets. Certains sont de nature optimiste, d'autres le sont moins. Nos frères et sœurs ont des faiblesses. Hein. On a tous... nos faiblesses, on lutte tous avec le péché. Chacun a du progrès à faire. Mais il faut voir en l'autre un frère du Seigneur, une sœur de Jésus-Christ, un pardonné, quelqu'un qui est accepté par Dieu, même avec tous ses défauts, grâce au sang de Jésus-Christ. C'est vrai que dans une petite église, ce n'est pas facile de se cacher, ce n'est pas facile d'éviter les gens. Tant mieux. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais comment est-ce que nous aimons nos frères et sœurs ? Qu'est-ce que ce passage nous en dit ? Donc au verset 10, Jean nous parle du fait de ne pas être une cause de chute pour nos frères et sœurs, de ne pas être une cause d'éloignement. Que notre comportement ne conduise pas un frère ou une sœur à douter de sa foi, ou à faire quelque chose qui déplaît au Seigneur, qui va contre sa conscience, mais qui vise plutôt à les fortifier dans la foi, à les encourager, à compter les bienfaits de Dieu, à espérer en lui, à s'attendre à lui. Comment ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça s'exprime parfois simplement par les petits mots, par les gestes d'amitié, un repas, par l'aide pratique, en patientant avant d'ouvrir la bouche, en s'intéressant à nos frères et sœurs avant de parler de nous-mêmes. Ça peut être un coup de téléphone, par la prière. Et c'est quelque chose qui dépasse notre propre communauté. Il y a nos frères et sœurs qui fréquentent les églises autour. Et plus loin encore, il y a des chrétiens qui vivent dans les pays où c'est difficile d'être chrétien, ou simplement dans des pays qui sont en guerre où y a de la famine. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'inattendu, c'est la vie chrétienne normale. Jean ne veut pas nous déstabiliser, il ne veut pas nous faire peur, il veut nous rassurer. La spiritualité chrétienne est terre à terre. Il n'y a pas de connaissances secrètes. Vous n'avez pas à chercher des expériences hautement spirituelles, mystiques. Vous vivez la vie chrétienne. Vous la vivez déjà. C'est vrai, nous sommes en marche. Nous avons du progrès à faire. Mais nous sommes en chemin. Je pense que même le fait d'être là, semaine après semaine, montre déjà ce désir d'aimer les frères et sœurs. En troisième partie, comme j'ai dit, vous ressemblez à des chrétiens authentiques. Alors Jean complète cette section en parlant de l'Église. Et il écrit à trois catégories de personnes. Il a écrit deux fois. Il écrit et il a écrit aux enfants, aux pères et aux jeunes gens. Mais je pense qu'il parle à tout le monde. Je pense que ces groupes représentent plutôt peut-être les stages de foi, les moments dans la vie chrétienne. Au début, nous sommes tous enfants, des enfants dans la foi. Ensuite, nous devenons des jeunes gens. Et ensuite, nous devenons des pères dans la foi. En tout cas, il y a une sorte de progression. Même si, bon, il y a peut-être du chevauchement entre les trois. Il a écrit ces choses, non pas parce qu'il doute de l'authenticité de la foi. Au contraire, Jean est persuadé que les enfants, les jeunes gens et les pères connaissent Dieu. Alors les enfants d'abord. Ils connaissent le pardon des péchés, donc verset 12. Et au verset 14, ils connaissent Dieu le Père. C'est les débuts de la vie chrétienne. Ils connaissent la joie du pardon et la libération que ça représente d'appeler Dieu Père. Écoutez ce que dit un théologien qui s'appelle Packard dans son livre « Connaître Dieu ». Il dit « Si vous voulez savoir dans quelle mesure quelqu'un a compris ce qu'était le christianisme, vérifiez l'importance qu'il attache à l'idée d'être enfant de Dieu et d'avoir Dieu pour Père. Si ce n'est pas cette idée qui inspire et qui dirige sa louange, ses prières et toute sa conception de la vie, c'est qu'il n'a pas réellement compris ce qu'a été le christianisme. » Parole forte. Alors les pères. Pour Jean, les pères sont ceux qui ont cette connaissance approfondie du Dieu créateur, de celui qui est dès le commencement. C'est quelqu'un qui a acquis une confiance en Dieu. C'est quelqu'un qui regarde vers l'éternité, qui se tourne déjà vers l'éternité, parce que son espérance y est, son trésor y est. Ensuite, les jeunes gens ont vaincu le mauvais. Les jeunes gens, ils ont fait quelques progrès, ils ne sont plus des enfants ballottés par les flots. Ils ont peut-être surmonté ces chutes qui nous entraînent en arrière. Avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont vaincu quelques-uns de ces péchés qui peuvent couler un chrétien. Jean venu assurer. Il nous dit, il n'y a pas de test inattendu, il n'y a pas d'épreuve surprise, il n'y a pas une spiritualité cachée, supérieure. Non. Aimer Dieu en marchant, en suivant le modèle de son Fils. Aimez vos frères et sœurs, tout comme Jésus vous a aimés. Voilà les signes d'un chrétien authentique. Un chrétien authentique qui dépend de la grâce, qui a mis sa confiance en Jésus et qui revient humblement à Jésus quand il n'y arrive pas, quand il tombe. Et par la grâce, c'est ce que vous faites. Donc continuez dans cette voie. Prions. Bon Père Céleste, merci en effet de ce que nous pouvons t'appeler Père, que nous pouvons nous approcher de toi avec une pleine confiance. Nous savons que tu nous as adoptés, tu as fait de nous tes enfants. Et nous avons notre frère qui est à ta droite, qui plaide notre cause, qui a expié nos péchés, qui est là, qui te rend propice par son sacrifice à la croix. Merci pour cette confiance inouïe de nous approcher librement, sans peur, parce que tout est accompli. C'est lui qui a tout fait. Père, nous voulons te demander de nous aider à vivre comme tu souhaites et de vivre vraiment pleinement cette grâce que tu nous as faite. Aide-nous à t'aimer, à t'obéir, à prendre plaisir en toi, à prendre plaisir en tes commandements. Et donne-nous le vouloir et le faire de te servir cette semaine. Et je te demande aussi de nous aider de t'aimer en Église, d'aimer nos frères et sœurs. Seigneur, parfois, nous ne trouvons pas facile, mais merci de ce que tu nous as donné cette envie, de ce désir d'aimer nos frères et sœurs. Aide-nous à être patients, à voir en nos frères et sœurs des enfants adoptés, des frères et sœurs de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.